Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous allons aujourd'hui à la découverte de l'œuvre d'Ezio Gribaudeau. Et pour cela, nous allons à la rencontre du galeriste Éloi Boucher, qui est directeur de la galerie Sans Titre à Paris. Elle se trouve 13 rue Michel-Lecomte, dans le 3e arrondissement. Et elle accueille aujourd'hui une exposition de l'artiste Ezio Gribaudeau, qui est mort en 2022. Il est né en 1929 et était non seulement artiste, mais aussi éditeur d'art. Il a vécu et a travaillé à Turin. Il a suivi une formation artistique à l'Académie des Brera à Milan, puis à la Faculté d'architecture de l'École polytechnique de Turin. La production artistique d'Ezio Gribaudeau a été récompensée par plusieurs prix prestigieux, dont la 9e quadrennale de Rome en 1965, ainsi que le prix des arts graphiques à la 33e biennale de Venise en 1966, puis à la 9e biennale d'art à São Paulo, au Brésil, en 1967. Pour l'exposition à la galerie Sans Titre, qui se nomme « Paysage d'après la fin du monde », on peut voir la série « Cieli et Atlantes ». Les Cieli découlent de sa pratique d'éditeur. En utilisant les encres typographiques d'imprimerie industrielle, Ezio découvre ces sortes de ready-made célestes aux couleurs accidentelles. Les Cieli sont la preuve de l'esprit hybride d'Ezio, sans cesse ouvert aux nouvelles pratiques influencées par ses gestes multiples et ses rencontres inspirantes. Quant au Atlantes, il rappelle son goût de la beauté dénichée pendant ses nombreux voyages. On pense au sommet des montagnes de l'Atlas au Maroc, qui ont donné le nom à la série, mais aussi aux versants d'Australie et d'Hawaï, tous découverts pendant les années 70, et au massif imaginaire d'une Atlantide par lui seul retrouvée. Le geste instinctif, comme sur un carnet, prolonge la mémoire du voyage et rappelle que pour Ezio Gribaudeau, rien ne compte plus que le verbe « faire ». Mais avant de rencontrer Éloi Boucher, qui nous parlera davantage des œuvres, lisons en guise d'introduction le petit traité de contemplation des œuvres d'Ezio Gribaudeau, écrit par Boris Bergman. Face à l'inépuisable geste créatif d'Ezio, une légère mise à niveau s'impose. Il faut se mettre à sa hauteur, oui, mais de l'intérieur, apaiser son temps, presque son pouls. Et ainsi, tout voir, tout entendre, tout avaler, comme Ezio sait tout faire. Se mettre de son sillage, changer, grâce à lui, des tailles. Prendre les dimensions de l'univers. Ezio a eu mille et une vies. Il est passé mille fois à l'acte. Il a côtoyé tout le visage. Affamé de voyages, bafouant les frontières, il a parcouru des vallées, des fleuves, des déserts, visant toujours plus haut. Les sommets, les cieux, tout ce qui embrasse à pleine bouche l'infini. Il a rapporté de ses tracts des visions, mieux que des trophées, des fulgurantes intimités. Lui, dont l'existence est allée si vite, de façon si remplie, a donné naissance à des éclairs, des travaux comme des éclats, aux techniques sans cesse mouvantes, reflet de son appétit dévorant, de sa curiosité sans fin. Face à son œuvre, une question surgit. Comment cerner l'insatiable? Comment ne rien rater et en ressentir toute l'ampleur. Une solution s'offre à nous, imparable. Pour suivre Ezio à la trace, il nous faut ralentir. Se donner le temps. Car Ezio nous prendra toujours de vitesse dans ses gestes et ses réflexes. Donc, tranquille. Trouvons le tempo allongé pour lui répondre. Le grand calme de l'observation. Encore mieux, le souffle tendre et chaud de la contemplation. Voici comment faire. D'abord, prendre la pose la plus naturelle du monde. D'une simplicité enfantine. Assis, allongé, debout, collé au mur, contre le chauffage ou la fenêtre, ou loin, au plus près des œuvres. Épuiser le lieu de la galerie. S'y caler comme on le désire. Faire son nid. Nous avons mis exprès des bancs pour faciliter l'atterrissage. S'établir pleinement. Se lever. Une fois qu'on a pris place face aux œuvres, lentement, très lentement, ouvrir l'œil. Puis l'autre, sans chercher à regarder comme au réveil. Quand on est bien ancré, se mettre à voir. Voir comme pour sentir, pour mieux ressentir. Voir sans limite. Les couleurs, le passage de la main, la tactique sans cesse renouveler la tentative. Tout ce qui surgit des yeux, de son insolente faculté à vouloir toujours créer et sans cesse recommencer. Tout ce qui naît de sa poésie. Nous nous laissons partir, comme Ezio, vivre dans le torrent. S'arrimer à ses mouvements, à sa matière. Tout en relâchement, en jaillissement. Il y a quelque chose d'apaisant dans cet emportement. Comme lorsqu'on plonge dans le calme d'un océan. On se jette d'une corniche bruyante ou d'une roche aride, mais après le choc, tout s'arrête. Sauf les yeux, qui en parcourant la toile accélèrent à nouveau, deviennent regards. Va et vient imperceptible, mouvement pluriel des danses à même la pupille. La galerie a disparu. Elle s'est faite morceau de ciel ou de montagne, un lieu traversé encore infatigablement par le pas d'Ezio. On peut passer des heures à côtoyer ces toiles. On peut même lire une page entre chaque regard, se reposer, s'étendre à nouveau, se relâcher complètement, puis se reprendre, retrouver son souffle. Tels les êtres qui font le tour du globe et ne quittant pas leur chambre, tels les arpenteurs de rêves, les alpinistes en quête d'ascension absolue, Ezio s'est donné de la hauteur à celles et ceux qui, comme lui, se donnent au monde, à tout son monde. Voici les textes de Boris Bergman, qui par la suite donne aussi une liste de livres disposés dans la galerie. Il propose le mot analogue de René Dumas, K de Roberto Calasso, le zen de l'art chevaleresque du tir à l'arc, d'Eugène Erigel. La pesanteur et la grâce de Simone Veil, les rêveries de promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre. Décrivons maintenant ce qu'on voit concrètement dans l'exposition. C'est un espace tout allongé, avec des bancs au milieu. Et quand on entre dans la galerie, on voit d'abord la série Atlantes, des tableaux rectangulaires, où à chaque fois, une ligne de séparation, en forme des crêtes, divise le tableau en deux couleurs. D'une part, pour les premiers tableaux, du violet rose en bas et du jaune orangé en haut. Et en face, il y a un tableau où c'est du vert en bas, donc ce qui représenterait la montagne, si on veut, et du blanc en haut pour le ciel. Alors, ces couleurs, ils sont pas purs, ce ne sont pas des couleurs nettes, c'est des mélanges de couleurs qui sont dus au procédé des superpositions des couleurs d'encre sur le papier partiellement déjà coloré, ce qui crée des effets de palimpseste, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Alors, il faut peut-être ajouter que ces crêtes, ils sont à chaque fois très différentes et c'est assez dynamique. Puis, quand on va au fond de la galerie, on découvre la série Cieli, où là, il n'y a pas d'intervention coup de crayon, il n'y a pas de ligne de séparation. Mais sur ces trois tableaux qui se trouvent au fond, il y a d'abord un violet foncé qui vire vers du rouge brique, et ensuite une sorte de trait blond qui fait trait d'horizon. Des passages d'usure où les couleurs sont davantage délavées, qui font penser à une vague ou à de l'écume de la mer, ou à des étoiles, ou à la Voie lactée. Mais partons maintenant à la rencontre des lois bouchées.
Grammaire fantôme.
Bonjour Éloi Boucher, merci de me recevoir ici aujourd'hui de l'expo de
Ezio Crebaudo,
un artiste italien. Je suis ravie d'être là, on est entouré des tableaux de taille moyenne, donc quelle taille à peu près
Font 1m50 de large à peu près, ouais. Et à peu près 1m de hauteur, oui. Mmh. C'est toute une série, déjà je peux recontextualiser un peu le travail d'Ezio, qui était un artiste et un publisher assez important de la scène turinoise et italienne, qui est né en 1929 et qui est décédé il y a 2 ans, en 2022. Nous, on collabore avec lui depuis presque 4 ans, donc on l'a connu encore vivant, on avait des échanges réguliers avec lui, on allait souvent le visiter à Turin, et maintenant on travaille du coup avec l'estate, mais qui s'appelle, en Italie, on appelle plutôt ça une archivio, et qui est vraiment le même principe qu'un estate, mais qui vise plus aussi à défendre le travail dans un contexte curatorial. Donc à la tête de cet archivio, il y a sa fille, Paola Gribaudo, et la curatrice Lilou Vidal, qui elle défend son travail et qui le représente à des jeunes institutions, des jeunes curateurs. Et moi j'ai connu le travail d'Ezio Crebaudo grâce à Lilou Vidal, qui était une connaissance de Bruxelles, et qui a curaté une exposition de Ezio en 2018 à l'établissement d'en face, un lieu d'art indépendant à Bruxelles. Et elle avait fait toute une exposition autour de séries assez historiques, surtout des années 60, de peinture et de dessin du travail de l'artiste. Et au sous-sol de cet espace, elle avait reconstitué toute une bibliothèque qui permettait de voir, et moi c'est là où j'avais découvert que Ezio était une figure historique, tous les catalogues qu'il avait pu publier durant sa vie. Ezio a passé sa vie à voyager. Il a été nommé assez jeune, à une trentaine d'années, de directeur de la maison d'édition Fratelli Pozzo. Suite, en fait, d'abord cette maison d'édition publiait les tickets, enfin les horaires de tram et de bus de la ville, et Ezio a insufflé un pan artistique à cette maison d'édition. Et il a publié les plus grandes monographies de tous les artistes de sa génération avec qui il était très proche, donc Lucio Fontana, Karel Appel, Giorgio De Chirico, Wilfredo Lam aussi, enfin toute cette génération d'artistes, en fait il les a rencontrés, il passait beaucoup de temps avec eux, et de très beaux ouvrages qui maintenant sont assez durs à trouver en résultat de toutes ces collaborations. Et Ezio, en fait, de par sa double identité, de par ses doubles pratiques de publisher et d'artiste, n'a pas vraiment eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir pendant sa vie. Je pense que si à l'époque les gens aimaient définir vraiment quelqu'un en fonction d'une pratique, du coup ça pouvait porter à confusion le fait qu'il soit à la fois artiste et éditeur. Mais malgré tout, il a quand même remporté énormément de prix très prestigieux pendant sa vie. En 1966, il a remporté la Biennale de Venise avec toute une série d'œuvres historiques qui s'appelaient les Logogrifo, qui étaient dans des embossements sur des papiers buvards blancs, que nous montrerons justement à Art Basel en en juin 2024 dans la section des redécouvertes historiques. Et parmi d'autres prix aussi, il a remporté la 9e quadriennale à Rome. Il était très proche, comme je le disais, de Wilfredo Lam, qui l'a invité à de nombreuses manifestations et expositions à Cuba, notamment Cuba Collective dans les années 60. Mais Zio n'a jamais eu quelqu'un sur le long terme pour représenter son travail et pour le suivre vraiment de manière très proche. Et nous, c'est un peu le rôle qu'on a voulu embrasser pour pouvoir le faire pour l'héritage aussi de son travail, parce que c'est une figure assez particulière qui était plus liée au mouvement Cobra italien, qui a vraiment, comme je le disais, rencontré énormément d'artistes, dont tout son parcours est très intéressant, et c'est aussi de voir aussi lui comment sa proximité avec tous ces grands maîtres de sa génération a pu influencer son travail. Et lui aussi, son travail était très influencé par son autre métier en fait d'éditeur, parce que la plupart de ses œuvres ont un lien avec les techniques d'impression. On voit souvent le recours aux machines, aux presses, aux techniques d'impression qui sont inhérentes aux œuvres. Là, par exemple, les œuvres que nous montrons en ce moment à la galerie jusqu'au 20 avril sont des peintures, mais sur papier. En fait, c'était des papiers qui étaient utilisés afin de nettoyer les cadres et les presses d'impression. Et c'est des papiers assez épais, presque comme du tissu, en fait, qui se sont tendus sur des châssis en bois. Et en fait, ces papiers sont recouverts d'encre. Et encore une fois, les encres qui sont présentes ici dans l'exposition sont les encres de fin de tirage des livres que Ezio a publiés. Donc il y a tout ce rapport à utiliser les matrices, utiliser les techniques de son travail, les sens aussi, même les encres même. Et voilà, et sur cette série de paysages, qui sont en forme de paysages, Ezio revient aussi à chaque fois à la main avec des pastels ou avec des espèces d'instruments ou des couteaux afin de remettre un peu une patte manuelle aussi sur ses œuvres qui sont à première vue, quand on les voit de loin, plutôt des sortes d'images imprimées avec des compositions assez lisses, surtout dans les fonds. Mais après, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un travail unique sur chaque tableau.
Alors là, on voit qu'il y a des superpositions, ou que c'est peut-être du papier utilisé. C'est par exemple ici où il y a un rectangle qui se trouve dans le fond.
Alors ça, je pense que c'était la matrice du papier en fait, qui avait déjà servi à d'autres tirages, ou comme un cadre en fait de sérigraphie aussi, qui avait déjà eu des empreintes ou des choses antérieures. Et Ezio a réutilisé aussi volontairement en fait ses compositions pour avoir ces effets, ce qui lui permet aussi d'avoir des effets de différents points de vue en fait dans les tableaux. Et toute cette série sont principalement des monts et des montagnes qui sont inspirés du mont Atlas au Maroc. Et comme je le disais, en fait, vraiment les voyages, les destinations où Ezio allait sont vraiment très importants dans son travail, dans son appréhension du monde, de lui, son travail artistique. Ouais.
Donc à la fois éditeur,
ouais,
et pas forcément peintre, aussi sculpteur.
Peintre, sculpteur, dessinateur. Il a vraiment touché à tout pendant ce...
Il y a aussi tous ces livres qui sont sur des bons.
Oui, alors les livres là pour le coup ne sont pas des livres que Ezio a pu éditer. On en a d'autres qui sont aussi en consultation, mais là spécifiquement en fait, pour la scénographie de l'exposition, on a décidé d'installer des bancs, parce que ce sont une série d'œuvres qui sont très... qui s'avancent vraiment à des paysages. Donc il y a quelque chose de très contemplatif. Et on a invité l'auteur Boris Bergman, un jeune auteur français, à dialoguer avec le travail d'Ezio. On a souhaité inviter Boris parce qu'il avait curaté une exposition au FRAC Champagne-Ardenne et à la Fondation Tally à Bruxelles autour de l'ouvrage Le Mont Analogue de René Dommal. Et à la découverte de cette exposition, on s'est rendu compte que les recherches que Boris a fait pourraient bien s'allier aussi avec les tableaux d'Ezio. Boris a découvert le travail d'Ezio. On a beaucoup discuté aussi avec Yves Vinel et avec Paola Ribaudeau. Et a écrit pour l'exposition comme un poème autour de cette série d'œuvres. Et il a décidé aussi d'installer sur les bancs une série d'ouvrages qui parlent de tout ce rapport à la contemplation, à la méditation. Donc Simone Veil, La pesanteur et la grâce, mais il y a aussi un roman de Rousseau. Et voilà, c'est...
On peut faire le tour peut-être.
Oui.
Alors là, il y a aussi des dessins.
Oui, il y a une série de... Le dessin était quelque chose de très très important aussi dans le travail d'Ezio. Il partait pendant ses voyages avec de nombreux carnets. Et on résulte comme ça toute une série d'œuvres sur papier où à chaque fois Ezio inscrivait le lieu spécifique où il se rendait. Donc cette série, par exemple, c'est le tout autour de l'Australie avec le mont Olga, Kings Canyon. Il y a vraiment différents paysages que... Et à chaque fois, les techniques sont assez différentes aussi.
Là, c'est de la craie grasse ou c'est
oui,
pastel
c'est,
enfin.
Des pastels, du charbon, il y a un peu des crayons couleur, il y a un peu plusieurs...
Il y a comme ça des formes, des fois, qui deviennent assez abstraites.
Oui, oui, oui.
Mais qui sont inspirées de formes concrètes. C'est à chaque fois réellement
des
montagnes.
Ouais. Cette série aussi qui a l'air à première vue abstraite, c'est une série qui date de 75 que Ezio a appelée des Cieli. Et il y a vraiment cette idée de créer par la couleur et par la composition en fait, qu'il faisait aussi via les presses, des ciels abstraits, des cieux, enfin il y a tout un univers qui souhaitait. Et cette série a été la première fois montrée avec Peggy Guggenheim en 75. Dans une petite galerie à Turin, en 75, oui.
Et comment il a travaillé ? Est-ce que c'est quoi la production au point de vue de la taille ? Est-ce qu'il y a ça, c'est un triptyque ou il y en a beaucoup
non,
plus ?
Non, c'est toute une série de, il y en a une quinzaine à peu près justement. Il y a le reste de la série qui est en vue en ce moment au Musée Lyon à Bolzano. Dans une exposition qui s'appelle The Weight of the Concrete, et c'est une exposition qui a premièrement été montrée au Kunstverein de Graz de novembre à février 2023, enfin de novembre 2023 à février 2024, et l'exposition voyage en ce moment au Musée Lyon à Bolzano jusqu'à septembre 2024. C'est une exposition qui a été conçue en dialogue, qui a été initiée par Tom Engels, le directeur du Kunstverein de Graz, en discussion avec Ivo Vidal. Et aussi, la scénographie de l'exposition a été réalisée par David Escucci, un jeune artiste millénaire, qui a pour le coup, justement, cette série qu'on voit nous dans le deuxième espace, lui, il l'a installée sur des bras télé. Et les tableaux sont mouvants dans l'espace, il y a tout un système de lumière qui permet de révéler certaines parties, d'accentuer aussi certains effets de couleur et de matière des œuvres. Et en plus de l'intervention d'Avide Escucci sur les œuvres de Ezio, qui permettent de donner un nouveau regard à son travail, Lilou Vidal et Tom Engels ont curaté tout un programme de performance et de poésie en lien avec le travail de Ezio et de Davide.
Et ces systèmes d'impression, les logos Griffo, peut-être on peut revenir à ça un instant.
Les logos Griffo, c'était toute une série qui a commencé dans les années 60. C'est une série avec laquelle il a gagné la Biennale de Venise en 66 et c'est toute une série d'embossements sur papier en fait. C'est des grands papiers buvards qu'il utilisait pour les impressions et à chaque fois il y avait toute une matrice généralement en métal ou en bois qu'Ezio éditait spécialement et en fait c'était pas du tout un procédé. Enfin les œuvres des années 66 de la Biennale sont toutes uniques malgré le fait qu'elles auraient pu être devenir des éditions de par le principe même de la lithographie qui permet de faire des éditions. Mmh. Lui, il a délibérément choisi ce procédé pour faire des œuvres uniques.
Donc c'est des éditions à caractère unique, comme ça, à chaque fois, un tirage.
Le tirage était unique, il n'y avait pas d'autres impressions. Mmh. Et ça lui arrivait souvent aussi de rajouter de la couleur, des éléments. Mmh.
Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il était connu quand il était vivant
oui.
Et oublié par la suite.
Je dirais pas qu'il était... Il a été oublié un peu de par le fait de ne pas avoir quelqu'un sur le long terme qui l'a suivi dans sa vie, mais c'est vraiment quelqu'un qui était présent en fait pendant sa génération, en fait, qui était connu de tous les cercles d'artistes de sa génération. C'était quelqu'un d'aussi assez mondain, qui, de par aussi son travail, qui rencontrait énormément, qui voyageait beaucoup pour rencontrer des artistes et des personnalités du monde de l'art de l'époque. Et c'est quelqu'un qui accueillait énormément les gens chez lui. La maison existe toujours, c'est une grande maison à Turin qu'il a fait construire dans les années 70 avec son ami architecte Andrea Bruno. Et c'est une maison qui lui permettait d'avoir toute sa collection de livres, l'impression même des livres, mais aussi tout son atelier qui est encore visitable sur rendez-vous maintenant. Et c'était vraiment un lieu de rencontre assez important, important pour lui. Oui. De nombreuses personnes de sa génération sont passées par cette maison.
Donc un artiste d'artiste.
Oui.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme, une émission par Nadia Lichtig.